Vous écoutez On lit pour vous.
Un colloque pour contrer les discours haineux dans les établissements scolaires. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 27 janvier 2025 dans le magazine Fugue. Du 22 au 23 novembre dernier, le Gris Montréal a organisé un colloque intitulé « Jeunes queer et montée des discours adverses au Canada francophone ». Réunissant des organismes LGBTQ+, de la francophonie canadienne pour aborder les défis liés à la montée des discours haineux. C'est la première fois que le GRI organise un congrès de cette taille sur un sujet qui polarise énormément en ce moment nos sociétés occidentales. On se rencontrait essentiellement pour faire un état de la situation, pour renforcer l'importance d'inclure les jeunes LGBTQ+, et voir quelles sont les bonnes pratiques en la matière pour pouvoir aussi les protéger de ces discours de haine qui se propagent dans notre société, explique Marie Ouzeau, la directrice générale du GRI Montréal. Il y avait aussi des personnes d'organismes hors des grands centres urbains. Tout le monde était ici pour partager ce qui se vit normalement en silo, souligne Gabrielle Richard, la directrice de la recherche au GRI. On sentait qu'il y avait une demande pour se rencontrer, pour échanger nos idées, pour prendre du recul aussi. Cette demande de rencontre venait à point compte tenu du contexte social actuel. On s'est retrouvé donc avec environ 90 personnes et une quarantaine d'organismes, dont 23 associations proviennent hors Québec. Avec le GRI, cela fait plusieurs années que nous avons des contacts avec des communautés francophones LGBTQ+, hors Québec, que ce soit en Alberta, dans les Maritimes, le GRI Acadie, etc. S'il y a certaines spécificités, par contre, nous avons beaucoup de similarités, dont le fait français. Comment vivent ces minorités? Comment on peut tous s'entraider pour qu'elles se sentent moins seules dans leur coin? Ce colloque était aussi pour se donner des espaces de care, un espace bienveillant face à ce que nous vivons dans la société et la montée des discours haineux qu'on ne voyait pas auparavant, de souligner Marie Ouzeau. Il s'agissait essentiellement de voir comment les gens de ces différentes organisations pouvaient mobiliser leurs communautés respectives, la société civile, les pouvoirs publics, etc., le tout dans un contexte de polarisation, dit Marie Ouzeau. Et à juste titre, de voir aussi ensemble les méthodes qui ont fonctionné. Un des objectifs était, également, de renforcer les liens entre nous, de se redonner un nouveau souffle là où le découragement pourrait l'emporter, continue Marie Ouzeau. De ne pas oublier sa communauté, son organisme, les gens qui nous entourent et où l'on peut faire une différence dans ce combat contre la haine. On mettait parfois le doigt sur quelque chose qui était très vif vu l'ampleur des problèmes, poursuit pour sa part Gabrielle Richard. Comment on fait pour agir face à la problématique de l'arrêt des soins d'affirmation de genre en Alberta pour les jeunes trans? Ou encore ceux qui ont lutté contre la désinformation en milieu scolaire au Nouveau-Brunswick. Il y a des initiatives intéressantes. C'est bon de les partager parce que cela donne aussi de l'espoir. Parfois, dans notre société technologique, on ne pense pas à aller chercher des outils chez les plus anciens. Pourtant, il y a là une expertise en matière de lutte diversifiée. Ce qui m'a frappé lors d'un atelier, c'était la communauté intergénérationnelle. Les jeunes étaient intéressés à connaître les anciennes générations qui ont combattu pour l'égalité des droits, etc. Il nous faut renforcer les liens entre les diverses générations de nos communautés et apprendre ce qui s'est fait dans le passé pour lutter efficacement aujourd'hui, dit Marie Ouzeau. Ces organismes ont travaillé ensemble pour une stratégie de lettres adressées à deux publics différents. D'abord, à la société civile, et ce, d'un océan à l'autre au Canada. Ensuite, une autre destinée aux autorités fédérales et provinciales. Nous avons une équipe formidable qui a produit un fanzine qui sera envoyé à tous les groupes membres. Il y a un grand appétit de faire des choses en commun ici, poursuit Marie Ouzeau. Mais cela ne signifie pas que le Gris Montréal va prendre des positions publiques sur certains sujets. Puisqu'il est membre du Conseil québécois LGBT, il va laisser cet organisme de défense des droits continuer ses interventions auprès des diverses instances. « Il n'y a pas ici de changement de vocation pour le Gris », affirme-t-elle. Sur un autre plan, le Gris Montréal a toujours pour objectif d'atteindre les 1000 ateliers dans le milieu scolaire. Nous avons déjà 700 ateliers programmés en ce moment, donc on n'a pas de crainte. On sait qu'on se dirige vers les 1000 interventions en 2025, mais on refuse plusieurs demandes parce que nous n'avons pas suffisamment de bénévoles. Nous lançons un appel pour des bénévoles intervenants de tous les horizons, de toutes les origines et de tous les âges, afin de mieux représenter nos communautés dans les écoles, insiste la directrice générale du Gris Montréal. Les membres du Gris Montréal ont aussi participé au Symposium international sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ+. Bilan du passé, regard vers le futur, du projet « Sa vie LGBTQ+, les 28 et 29 novembre 2024, en collaboration avec la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, DSPG, de l'UQAM. Là aussi, on a abordé la question des discours haineux envers les communautés LGBTQ+. On a senti qu'il y a un grand besoin pour faire des études, des recherches sur qui sont ces personnes homophobes et transphobes et pourquoi le sont-elles justement, s'interroge Gabriel Richard. Nous nous devons de mettre l'emphase sur les différentes visions du monde et pourquoi ces personnes n'ont-elles pas ces visions d'un monde plus ouvert, plus accueillant, plus réceptif, etc. On se doit d'étudier ce phénomène qui, jusqu'à présent, n'a pas fait l'objet de sérieuses recherches encore, de terminer Gabriel Richard. C'était un colloque pour contrer les discours haineux dans les établissements scolaires, un texte d'André Constantin Passiour, paru le 27 janvier 2025 dans le magazine Fugue.
L'huile d'olive, maintenant un produit de luxe, un texte d'Annabelle Cailloux, paru le 9 janvier 2025 dans Le Devoir. L'inflation et les mauvaises récoltes ont fait bondir le prix de l'huile d'olive à l'épicerie, poussant de plus en plus de Québécois à la remplacer par des huiles moins dispendieuses. Les producteurs d'ici en ont aussi fait les frais et espèrent que les plus récentes récoltes, bien meilleures, pourraient enfin mettre un terme à cette hausse vertigineuse. L'huile d'olive était déjà un peu plus chère que les autres, mais là, c'est presque devenu un produit de luxe, lance Sylvain Charlebois, directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie. En seulement 3 ans, le prix moyen du litre d'huile d'olive a doublé au Québec, passant de 9 $ en octobre 2021 à 18 $ en octobre 2024. La dernière fois qu'il est passé sous la barre des 8 $ remonte à mars 2021, d'après Statistique Canada. Il faut dire que les récoltes d'olives en Europe, qui produit les 2/3 de l'huile d'olive consommée dans le monde, ont été particulièrement mauvaises lors des saisons 2022-2023 et 2023-2024 en raison de la multiplication des sécheresses. Parmi les plus gros producteurs, l'Espagne a produit seulement 620 000 tonnes d'huile d'olive durant la récolte de 2022-2023, contre 1,5 million de tonnes l'année précédente, donne en exemple M. Charlebois. Moins de ventes. Avec moins d'huile d'olive sur le marché et une demande mondiale qui se maintient, les prix se sont ainsi inévitablement envolés en épicerie. Dans un contexte inflationniste, plusieurs Québécois ont alors préféré réduire leur consommation de ce produit et se tourner vers une autre huile végétale plus abordable. En volume, on a vendu moins d'huile d'olive extra vierge en 2024 que les 5 années précédentes. Les prix plus élevés ont à peine amorti les pertes, constate Elisabeth Bélanger, présidente directrice générale de la maison Orphée, dont les produits se retrouvent sur les rayons de la plupart des grandes bannières. On mange de la marge depuis 2 ans. On aurait dû augmenter davantage, mais on a été pris avec des enjeux de négociation avec les grandes chaînes, indique avec regret Mme Bélanger, précisant avoir augmenté le coût de ses produits de seulement 45% en 2 ans, pendant que ses concurrents doublaient les leurs. En contrepartie, elle a vu ses ventes d'huile de tournesol et d'avocat augmenter dans la dernière année. Elle propose aussi un tout nouveau produit à ses clients depuis 2023, l'huile parfaite, qui est un mélange d'huile d'olive, de sésame, de lin, de tournesol et de canola. Ça permet d'avoir un prix intéressant, moins cher pour les consommateurs. Daniel Dubé, fondateur de la ferme Pré-Rieur, a quant à lui vu augmenter les ventes de son huile de tournesol dans la dernière année. Ce qui nous frappe surtout, c'est que dans les salons, on rencontre des gens habitués à l'huile d'olive, mais qui cherchent des alternatives parce que c'est devenu trop cher, souligne-t-il. Limiter la hausse. D'autres entreprises, comme Olive et Gourmandise, qui se spécialisent surtout dans l'huile d'olive, ont plutôt cherché à couper dans les frais connexes pour éviter de trop augmenter le prix de leurs produits et ainsi garder leurs clients. J'achète en plus grande quantité pour avoir de meilleurs prix. Je négocie le prix des bouteilles, des bouchons et des étiquettes. On regarde aussi pour gagner du temps d'embouteillage en investissant dans une machine pour les bouchons, explique la copropriétaire Catherine Veilleux. La stratégie est sensiblement la même du côté de l'entreprise Sous les Oliviers. La fondatrice, José Nadeau, s'est même rendue en Italie en juin pour trouver de nouveaux producteurs offrant de meilleurs prix. Une baisse des prix? La bonne nouvelle, c'est qu'on voit enfin de la lumière au bout du tunnel, lance soulagée Elisabeth Bélanger de la maison Orphée. Les récoltes de la dernière saison en Europe sont très bonnes, ce qui devrait calmer les prix sur le marché. Les prix au gros devraient diminuer de 50%. On peut donc s'attendre à moins de pression sur les prix au détail. Les prix vont arrêter d'augmenter et même diminuer en épicerie. C'est déjà le cas en Europe, indique Sylvain Charlebois. Ce sera du moins le cas pour les plus grandes bannières qui ont négocié leur contrat à l'avance. La situation risque d'être plus difficile pour les petits producteurs indépendants, selon lui. Catherine Veilleux, d'Olive et Gourmandise, craint en effet que la baisse des prix ne puisse se refléter sur le marché local. Notre taux de change n'est vraiment pas avantageux en ce moment. La valeur du dollar canadien a baissé. Ça va nous toucher les prochains mois, quand on va acheter en Europe, estime-t-elle. C'est sûr que la situation est inquiétante pour l'avenir. Avec les changements climatiques, on doit s'attendre à vivre de bonnes et de moins bonnes années dans notre milieu, renchérit José Nadeau de Sous les Oliviers. Mais je suis une éternelle optimiste. Ça ne va pas mal partout en même temps dans le monde. On peut changer de producteur et trouver collectivement des solutions. C'était l'huile d'olive, maintenant un produit de luxe, un texte d'Annabelle Caillou paru le 9 janvier 2025 dans Le Devoir.
Femme garantie à l'épreuve du temps, un texte de Rose-Aimée Autonne T. Morin paru le 29 février 2024 dans La Presse. Sur le papier, 8 fois le même visage au trait parfait. La femme demeure lisse et souriante de ses 20 à 90 ans. Pascal Montpetit a nommé cette illustration « Femme en aluminium brossé garantie à l'épreuve du temps ». Et moi, comme plusieurs, je suis tombée sous le charme. Avant le Conservatoire d'art dramatique, Pascal Montpetit a mené des études en art visuel. Or, si elle dessine depuis 45 ans, elle a longtemps gardé sa production privée. Ce n'est qu'avec la pandémie que la comédienne, cherchant une fenêtre sur le monde, a commencé à publier ses créations sur les réseaux sociaux. Il y a un an, elle vivait sa première exposition et apprenait du même coup à accepter l'idée qu'elle avait du talent. Ces gens qui n'étaient pas mes amis n'achetaient pas mes dessins pour me faire plaisir, lance-t-elle presque gênée. C'était donc sûrement parce qu'ils aimaient vraiment ça. Je lui confirme, entre deux gorgées de thé, qu'il y a beaucoup de choses à apprécier dans son travail. Personnellement, c'est sa manière de présenter l'état de femme qui me bouleverse. J'ai l'impression qu'avec ses nus, elle pèse sur les bobos que sont la crainte de la vieillesse, la pression du regard extérieur et la quête d'agentivité. J'étais d'ailleurs curieuse d'en savoir plus sur sa démarche à l'approche de la Journée internationale des droits des femmes. Elle sourit en haussant les épaules. Montaigne a écrit « Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Moi, quand je dessine, je dessine. Je ne veux rien dire. Je m'amuse. » Donc, le tableau nommé « Les dessous du casting féminin » présentant une femme comme une pièce de viande rouge ne veut rien dire. Les dessous du casting féminin. Pascal, mon petit, éclate de rire avant de lâcher un « bon ». Bien senti. Elle m'explique qu'elle puise ses nus lors d'ateliers de modèles vivants. Après une séance de 3 heures, elle est souvent interpellée par une pose en particulier. Elle met alors ce corps en scène, comme si son papier était une scène de théâtre. Et oui, son parcours vient parfois teinter le tableau. On est dans un train qui ne s'arrête jamais, réfléchit-elle. On n'y pense pas quand on est jeune, et c'est très bien comme ça. Mais à la 60aine, j'ai commencé à reconnaître que je changeais. En tant que comédienne, je fais un travail d'image. Je ne peux pas dire que l'image n'est pas importante. Le casting sert à trouver la bonne image. Je ne suis pas fâchée. Elle ajoute que l'héroïne typique a souvent moins de 40 ans. La femme se retrouve un jour à jouer la mère ou la voisine, ainsi va la vie. Les choses ne seraient-elles pas différentes si on avait droit à plus de films comme le magnifique « Good luck to you » Leo Grande? Dans cette fiction de Sophie Hyde, Emma Thompson incarne une veuve de 56 ans cherchant à découvrir les plaisirs de la chair. Elle expose son corps nu, révélant une beauté, une vulnérabilité et une soif d'exister qui coupe le souffle. Ce qui me frappe, c'est que tous les corps nus sont beaux, me répond Pascal, mon petit. Pourtant, il y a beaucoup de filles qui sont en guerre civile entre leur corps et leur esprit. C'est peut-être comme ça pour les hommes aussi. Il faudrait que j'en parle davantage avec eux. Quand j'ai dessiné la femme en aluminium brossé garantie à l'épreuve du temps, je venais de regarder le documentaire « Sois belle et tais-toi » de Delphine Seyrig. Je me disais que ce qu'on veut est impossible, autant pour le regardeur que la regardée. On ne veut pas vieillir du tout, et ça ne se peut juste pas. On peut ralentir le processus, par contre. On a d'ailleurs recommandé à Pascal Monpetit d'avoir recours à des interventions esthétiques si elle souhaitait éviter de perdre des rôles. Bien franchement, si j'avais 30 000 $ à mettre là-dessus et que j'étais certaine du résultat, je le ferais, avoue-t-elle sans détour. Si je pouvais signer un pacte avec le diable pour redevenir plus jeune, je le ferais aussi. Même s'il y a des avantages à vieillir, comme se calisser plus du regard des autres. C'est une liberté chèrement acquise que de pouvoir dire ce que tu penses. Parlant de s'exprimer librement, Pascal Monpetit a participé à la 12e édition du Combat contre la langue de bois en 2022. Dans son numéro, elle soulignait que si on compte l'âge des chiens en le multipliant par 7, c'est pareil chez les actrices. Du haut de ses 63 ans, Aux yeux de l'industrie, Pascal en a vraiment 441. Notons qu'elle terminait ce même numéro flambant nu, une audace que je retrouve dans ses illustrations, bien qu'elle estime rester inoffensive dans son art. J'en pense bien plus que je ne le montre. Je ne veux déranger personne, mais je veux être vu. Si nul ne rêve d'être invisibilisé, les femmes finissent souvent par l'être. J'admire la résistance de Pascal Monpetit. Te sens-tu libre en tant que femme? Oui, autant qu'on puisse être libre en tant qu'être humain. On est tous névrosés et pognés, et ça n'empêche pas qu'il y a encore des inégalités patentes. L'injustice, c'est ma limite. Dis-moi, arrives-tu à être de bonne humeur au quotidien tout en étant contre les injustices? J'ai un élan vital qui ne se dément pas, mais pour être heureux, il faut ruser beaucoup. On doit tourner le dos à certaines choses, faire des micro-ajustements perpétuels et se dire que ça vaut parfois la peine d'avoir le vent dans la face. Je l'aime beaucoup. C'était « Femme garantie à l'épreuve du temps », un texte de Rose-Aimée Autonne T. Morin, paru le 29 février 2024 dans la presse.
Un réchauffement de 3,9% à Montréal en 2024 par rapport à l'ère pré-industrielle. Un texte d'Alexis Riopel paru le 10 janvier 2025 dans Le Devoir. Maintenant que l'année 2024 est derrière nous, c'est l'heure des bilans climatiques. À l'échelle mondiale, la température a atteint un nouveau sommet. Dans les prochains jours, plusieurs instituts climatologiques vont annoncer leur évaluation du réchauffement planétaire, calculée à partir de l'ensemble des stations météo sur Terre. Déjà, on sait que la hausse sera d'environ 1,5 degré centigrade par rapport aux températures pré-industrielles. Et à Montréal? Selon les données d'Environnement Canada, l'année 2024 aura été 3,9 degrés centigrades, plus chaude que la moyenne historique de la métropole. Malheureusement, ce n'est pas une surprise, dit Philippe Lucas Piché, un professeur au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal. Les données proviennent de la station de Montréal-McGill, 1872-1993, et de la station McTavish, 1994-2024. C'est Florian Knoll, un stagiaire de M. Lucas Piché, qui les a fournis au Devoir. Le réchauffement moyen à Montréal, plus 3,9 degrés centigrades, est donc 2,6 fois supérieur à celui de la planète dans son ensemble, plus 1,5 degrés centigrades. Différents phénomènes expliquent cette différence majeure. D'abord, en général, l'atmosphère se réchauffe plus vite au-dessus des continents que des océans. C'est vrai à Montréal, mais aussi partout sur la terre ferme. En cause, les océans absorbent la chaleur. L'évaporation à leur surface dissipe aussi beaucoup d'énergie. Ensuite, on dénote un effet d'amplification du réchauffement au pôle, parce que la glace de mer de l'Arctique, en fondant, cède sa place à une mer noire. Cette région devient alors moins blanche et reflète de moins en moins le rayonnement solaire vers l'espace. Montréal en subit l'influence à distance et voit aussi son propre couvert neigeux s'amenuiser. Le réchauffement au Canada est encore le double de celui constaté à l'échelle mondiale, rappelle Damon Matthews, climatologue à l'Université Concordia. Enfin, un effet d'îlot de chaleur urbain entre aussi en compte. À Montréal, comme dans les autres grandes villes, les bâtiments et les routes absorbent le rayonnement solaire plutôt que de le réfléchir. Cela fait monter la température. À cela s'ajoute la chaleur dégagée par les automobiles et le chauffage des immeubles. Année record à l'échelle mondiale. La hausse record constatée à Montréal s'inscrit dans un réchauffement mondial exceptionnel depuis 2023. Ce réchauffement, plus 1,5 degré centigrade, surpasse la tendance sur plusieurs années qui s'est établie plutôt à plus 1,3 degré centigrade. Ce sursaut découle en partie du dernier épisode d'El Niño, juin 2023 à mai 2024, qui réduit l'absorption de la chaleur par l'océan Pacifique. Selon les climatologues, il procède aussi d'une réduction de la quantité d'aérosols dans l'air, notamment grâce aux efforts anti-pollution de la Chine et d'une nouvelle règle de l'Organisation maritime internationale qui abaisse les émissions de soufre des navires. Les aérosols sont nocifs pour la santé respiratoire, mais stimulent la création de nuages qui reflètent les rayons du soleil. Messieurs Lucas Pichet et Matthews ne sont toutefois pas certains que ces deux effets, El Niño et les aérosols, ont une incidence significative sur la température à Montréal. Un hiver extrêmement doux. Revenons à Montréal. Les données rassemblées par les chercheurs de l'UQAM montrent que les mois hivernaux de 2024 ont été particulièrement doux. En février 2024, le mercure était 6,9 degrés centigrades plus chaud que la moyenne du début du siècle dernier pour février. En janvier et en mars, l'anomalie était d'environ plus 5 degrés centigrades. Même quand on le compare à une époque récente, 1991-2020, l'hiver 2024 est largement au-dessus des moyennes, plus 3 degrés centigrades environ. Cela dit, l'année 2024, la plus chaude jamais enregistrée à Montréal, ne s'est pas démarquée par des extrêmes de chaleur qui ont marqué les esprits, relève M. Lucas Pichet. Sauf peut-être la soirée de l'Halloween qui sortait clairement du lot. Le réchauffement record dans la métropole découle plutôt d'une accumulation d'anomalies survenues d'un bout à l'autre de l'année qui impose une nouvelle réalité climatique plus chaude. C'est difficile maintenant de compter sur une patinoire extérieure bien gelée en hiver. Pareil pour le ski, quand il fait froid, il faut s'y précipiter. C'est notre réalité aujourd'hui et ça va continuer de se réchauffer, dit le scientifique avec nostalgie. C'était un réchauffement de 3,9 degrés centigrades à Montréal en 2024 par rapport à l'ère pré-industrielle, un texte d'Alexis Riopel paru le 10 janvier 2025 dans Le Devoir.